Et c'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi. Bretagne vivante vient se faufiler jusqu'à nos oreilles avec une langue fourchue et un magnifique habit d'écaille.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait glisser à même le sol du Finistère. Vous reposez au soleil, quand il y en a, au bord d'une rivière, pourquoi pas, vous réfugiez sous une pierre quand le danger guette. Et une fois par mois, Bretagne Vivante vient nous raconter les vivants non humains et sauvages. Parfois ce sont des végétaux, souvent des animaux, souvent des mammifères ou des oiseaux, très populaires auprès de nous les humains. Mais pas toujours, parfois il y a les moins populaires, parce que ces espèces souffrent, disons, d'une mauvaise image, beaucoup d'idées reçues, et c'est ça qu'on va démonter aujourd'hui. Notre invitée du jour est la vipère Péliade, et elle est représentée aujourd'hui par le spécialiste des reptiles que vous connaissez à Bretagne Vivante. C'est un herpétologue, on dit, et c'est Stéphane Visa. Bonjour Stéphane.
Bonjour Véronique.
Alors cette vipère Péliade, on va décortiquer d'abord sa vie, son œuvre. Déjà sa forme, à quoi est-ce qu'elle ressemble ? C'est, elle est très belle, moi je trouve. J'ai pas peur des serpents.
Oui, moi aussi, je suis bien d'accord. c'est un serpent. Voilà, qui fait à peu près une soixantaine de centimètres chez nous.
Quand même.
Oui, ouais. Il y a des individus qui peuvent mesurer plus de 80 centimètres. Je crois que le record, c'est une femelle qui dépasse le mètre même.
Ah. Oui, parce que les vipères, on a toujours dans l'idée que c'est tout petit, mais...
Oui.
Pas si petit que ça.
Globalement, ça, on est plutôt autour d'une soixantaine de centimètres, quoi. Et les mâles sont plus petits que les femelles.
Épais comme serpent ou...
Ça dépend, les femelles gravides sont très épaisses et puis les mâles au sortir de l'hibernation sont très maigres. Ça dépend de la période à laquelle on les observe. D'aspect, ça a une queue courte et par rapport à une couleuvre, on peut déjà voir la différence. La couleuvre a une longue queue effilée comme ça qui prolonge le corps. C'est beaucoup plus court et ramassé chez la vipère. La tête, elle est triangulaire, elle n'est pas ovale. Et puis si on a la chance de la voir de près, on se rend compte que la pupille, elle est verticale, un peu comme celle d'un chat.
Et c'est pas le cas chez les couleuvres ?
Et les couleuvres ont les pupilles rondes.
Ah, d'accord.
Et puis il y a un aspect avec beaucoup plus d'écailles, en fait, au niveau de la tête. Les écailles sont plus grosses chez les couleuvres. Donc tout ça fait qu'on la reconnaît assez facilement sur le terrain. Il y a quand même une petite couleuvre avec laquelle il faut faire attention, qui a les mêmes couleurs un peu terreuses, quoi, entre le marron et le noir, là, qui s'appelle la coronelle lisse. Et qui est une espèce avec laquelle on peut facilement se tromper. Mais sinon, pour le reste, on n'a pas beaucoup de serpents non plus en Bretagne, et d'autant plus dans le Finistère.
Et par rapport aux autres vipères, la Péliade, qu'est-ce qu'elle a comme différence ?
La vipère, c'est la seule vipère présente en Bretagne.
La Péliade ? Il n'y a pas d'aspic.
Il n'y a pas d'aspic. Ah, oui. Alors, la Bretagne administrative, non. La Bretagne a 5 départements, oui. Voilà. Mais nous, on travaille plutôt à l'échelle administrative, en tout cas dans l'observatoire et pour le plan national dont je parlerai. Donc, on n'est que sur la vipère Péliade. Puis la vipère aspic, elle ressemble quand même pas mal à une vipère Péliade. Faut bien l'avouer. Moi, je la connais moins parce que je passe rarement la Loire. Mais elle a aussi un museau un peu surélevé, un peu retroussé,
qui lui donne une tête un peu
différente. Ouais. Voilà. Puis en France, si on continue, il y a une autre vipère qui est la vipère d'Orsini, qui est une vipère très très menacée dans le sud du Massif Central, qui se nourrit d'orthoptères essentiellement, là, de criquets, de grillons, de sauterelles. Et puis il y a l'équivalent de la vipère Péliade. Alors équivalent, c'est pas du tout scientifique ce que je dis, mais ça a longtemps été considéré comme une sous-espèce un peu de la Péliade, et qui est dans le Pays Basque, qui est la vipère de Séouane. Voilà. Puis là on a fait le tour,
donc nous, voilà. Pélia, ça veut dire quoi d'ailleurs?
Alors Pélia, j'ai regardé avant de venir. Et je me
c'est bien, il a révisé Stéphane Visa. Il est très bien, mais... comme
d'habitude. Non, mais je ne me souviens plus.
En fait, on ne trouve pas.
Non, mais je crois qu'en fait, c'est assez controversé. Il y a plusieurs
ouais,
explications.
Ça, ils ne sont pas d'accord.
Et, ouais, et, mais je ne me souviens plus lesquelles. Il va falloir que les auditeurs recherchent.
on le mettra dans l'article assorti au podcast,
oui,
c'est pas grave. Donc, comment est-ce qu'elle vit? Enfin, déjà, bon, il y a une période de reproduction. Justement, c'est quoi sa période de reproduction à la vipère Pélia?
Alors, c'est une espèce qui hiberne.
Ah.
En général, les premiers adultes sont les mâles, sortent avant les femelles, donc.
Mais elle hiberne dans un terrier?
Terrier, anfractuosité, ouais. Elle se cache sous le sol, dans un endroit où les températures sont stables, ouais. Où il y a suffisamment d'humidité aussi. Enfin bref, c'est des machines de haute précision, hein, dans tous les compartiments de leur vie. Ça a besoin de conditions quand même très écologiques, très, très rigoureuses, très pointues.
C'est un peu le problème d'ailleurs, sans doute.
Ouais.
Et c'est des animaux à sang froid, hein, c'est pour ça que la température est importante.
Oui, c'est ça. Dans une bonne journée, en janvier, alors on n'en a pas eu trop cette année, mais une journée ensoleillée, je veux dire, avec un ciel bleu et les températures qui montent un peu, on peut voir des vipères s'insoler, c'est-à-dire se mettre au soleil, et avant de repartir, finir leur hibernation. C'est possible aussi.
C'est un sommeil léger, c'est une hibernation à sommeil léger,
voilà,
on va dire.
Ça, c'est ça. Et alors, donc les mâles sortent les premiers, alors ça devrait pas tarder là, on espère.
Voilà, un petit peu de soleil ne fera pas de mal.
Et c'est la meilleure période d'ailleurs pour observer l'espèce sur le terrain. Ça arrive là.
Ah oui, février quoi. Février-mars.
Mars, voire avril. Parce que ça soit les mâles qui sortent ou les femelles après, elles ont un besoin de refaire un peu le plein énergétique. Donc elles s'insolent beaucoup plus. Et donc elles se mettent à découvert quoi. Contrairement à d'autres moments de l'année où elles sont beaucoup plus discrètes.
Ouais.
Donc c'est vraiment la bonne période là pour les observer à ce moment-là. Et d'autant plus que la végétation, elle est rase à ce moment.
Ah oui,
voilà, les plantes n'ont pas eu le temps encore de pousser, donc on peut
mieux
les voir.
On pourra la voir, quoi. C'est comme observer les oiseaux l'hiver quand il n'y a pas de feuilles dans les arbres.
C'est ça, c'est le même principe. Okay. C'est le même principe.
Et énergétiquement, enfin, il n'y a pas que le soleil, j'imagine qu'elles se nourrissent.
Oui,
c'est
alors
vipère.
Voilà. Donc, alors le mâle il sort, il va s'insoler, il va manger.
Et qu'est-ce qu'ils mangent qu'est-ce qu'elles mangent les vipères péliades?
Globalement des rongeurs. Voilà, c'est vraiment la proie de prédilection des vipères. Alors après, bon, bah il y a les jeunes qui peuvent taper dans des arbres, dans des insectes. Les vipères adultes peuvent manger un amphibien, voire un oiseau. Voilà, ça peut arriver, mais globalement, ce sont
sont des carnivores stricts.
Et voilà, et le mâle va muer aussi à ce moment-là. Et puis ensuite, il va commencer à penser à se reproduire. Voilà, donc là, il sent avec son organe, là, sa langue fourchue dont tu as parlé en introduction, des phéromones laissées par les femelles. S'il y a un mâle dans le coin, ils peuvent se battre, s'entremêler,
se faire des
combats entre mâles.
Ils sont territoriaux un peu.
C'est surtout les femelles qui le sont, mais aller
d'accord.
vers les femelles, quoi.
Ah ouais.
Donc les mâles sont plus mobiles, les femelles
d'accord.
sont très territoriales. Et puis ensuite, il y a l'accouplement. Il y a une longue gestation qui mène les adultes. C'est là où on voit vraiment les grosses femelles, entre guillemets grosses, qui elles aussi ont des besoins énergétiques importants pour pouvoir faire maturer leurs œufs à l'intérieur.
Parce que c'est des œufs à l'intérieur. Alors
c'est
ça
des œufs à l'intérieur.
Comment ça, ovovivipare, c'est ça
C'est ça, ouais. Elle est clairement même vivipare, en fait.
Ah ouais, d'accord.
Elle largue des vipéraux sont directement autonomes et qui sont sans œufs, quoi.
Et combien elle a d'œufs à peu près par gestation, on sait?
Oui, on sait. Alors ça, j'ai révisé aussi avant de venir. Je savais qu'on allait me poser certaines questions.
Désolé.
J'imagine, c'est 7-8, quoi.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Ah, oui,
après, c'est très variable.
C'est pas comme les amphibiens, quoi.
C'est quelque chose comme ça. Oui, voilà. Et donc, la mise bas a lieu plutôt au mois d'août, quoi.
Ouais, quand il fait bien chaud.
L'été, voilà. Mmh. Et puis après, ça repart pour un nouveau cycle.
Voilà, et les petits se débrouillent tout de suite. Hein.
Et les petits se débrouillent tout de suite. Alors, autant dire que c'est des périodes où ils sont très vulnérables.
Ah bah oui, ils se font manger, j'imagine, par les oiseaux, tout ça.
Par les oiseaux, par les sangliers. Il y a beaucoup de prédateurs. Bah, il y a de la littérature qui circule sur l'impact des populations de sangliers sur les serpents de façon générale et les vipères en particulier. Le piétinement aussi, hein, quand vous essayez d'hiberner tranquillement et qu'il y a une horde de sangliers au-dessus de vous.
Ah oui, c'est sûr, voilà, ça fait du dégât.
Ça peut faire un peu de dégâts et puis les bestioles trouvées sont ingurgitées directement, quoi. Mm-hmm. Voilà.
Voilà, donc portrait du vipéro et de la vipère, en fait,
oui,
ses parents.
Oui.
Et donc, alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de savoir dans quel milieu les vipères péliades vivent, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles aiment, puisque ce sont des machines de haute précision. Qu'est-ce qu'il leur faut ?
Eh bien, en fait, déjà dire que c'est une espèce, parce que nous, on travaille sur la vipère péliade uniquement en Bretagne, c'est une espèce sur laquelle il y a de gros enjeux de conservation. Les voyants sont au rouge, clairement, sur les populations de vipères. L'espèce, elle est sur la liste rouge nationale avec un statut vulnérable. Elle est sur la liste rouge régionale avec un statut en danger. Donc, on parle clairement de disparition à court ou moyen terme, quoi. Donc, il y a un vrai sujet, en fait, qui de conservation, et c'est une espèce qu'on va trouver de préférence avec des belles populations encore et interconnectées dans des milieux qui présentent une forte naturalité.
Et oui.
Voilà, c'est un peu comme à chaque fois que je viens, c'est je ça. Dis ça pour tout
les
le monde.
Les animaux sauvages, il n'y a pas de mystère,
non,
il leur faut du sauvage.
C'est ça,
vivent.
C'est d'accord. Ça. Et mmh. ou du semi-naturel, mais
des prairies, par exemple,
extensif.
Ça peut être bien.
Ouais. Alors le bocage, ouais. Et puis les espaces lenticoles, et puis le.
Lenticoles, ça veut dire quoi?
Bah, des landes, quoi.
Ah oui, les landes.
Que ce soit
d'accord,
des landes
okay.
intérieures, donc
ouais.
Par exemple dans les monts d'Arrée, ou des landes littorales. Mm. Voilà, donc l'espèce, ouais. Elle se porte bien encore, on imagine, sur le pourtour, sur le littoral, et puis à l'intérieur, sur des hotspots, comme on appelle ça, hein, des points chauds. Alors à l'échelle du Finistère, ça va être les Monts d'Arrée, ça va être la presqu'île de Crozon, ça va être la baie d'Audierne, quoi. Voilà, c'est ces trois endroits-là.
Il leur faut des milieux donc un peu humides, mais pas trop.
Elles supportent des milieux humides, mais après, pas des milieux inondés. Donc en ce moment, c'est un peu compliqué, j'imagine.
Elles ne nagent pas.
Oui, voilà. Et puis, ouais. Et puis elles sont en général connectées, en tout cas les territoires des femelles, sur des zones de lisière. C'est ça qui est important à comprendre. C'est que on peut trouver des vipères dans les cœurs de prairies ou dans des voilà, mais rarement dans des cœurs de boisement, et souvent c'est à l'interface boisement ou milieu ouvert.
D'où l'intérêt du bocage.
D'où l'intérêt du bocage, et d'où l'intérêt d'avoir des haies en bon état de fonctionnement pour une vipère, quoi. C'est-à-dire que si c'est une haie ornementale de tuya,
ça marche aucun intérêt. Ouais.
Voilà, il faut des haies avec la strate, non seulement la strate herborée, mais aussi une strate arborescente de type roncier, qui va permettre aux adultes de se cacher facilement, et puis avec des zones un peu plus rases, donc une strate herbacée en plus, assez haute, quoi, et qui va permettre aux bêtes de s'insoler à proximité d'un abri et d'un refuge. Donc il faut les places d'insolation, les cachettes, et puis aussi des feuillus, pour qu'il y ait beaucoup de mulots à se balader qu'il y ait de la bouffe, quoi.
Du manger.
C'est ça.
Donc c'est intéressant, par exemple, pour une exploitation maraîchère, d'avoir des vipères péliades, par exemple, quoi.
Voilà. Bah, c'est intéressant pour tout le monde.
Pour tout le monde, bien sûr. On est d'accord. Mais en plus, quoi, il y a vraiment un bonus, non, d'avoir des vipères quand on a une exploitation maraîchère, parce qu'il y a toujours des mulots qui viennent manger.
C'est un prédateur qui consomme. Alors ça, par contre, je pourrais pas vous dire le nombre de bêtes qu'on consomme, etc. Ouais. Ça reste un serpent, ouais. Donc ça va pas être, ça doit consommer moins d'individus qu'un renard, quoi, par exemple, j'imagine. Mais oui, effectivement. Et puis après, il y a pas de. Enfin, moi, je suis des populations de vipères sur des zones naturelles, mais aussi sur des zones agricoles. Il y a aucune interaction négative entre, en tout cas, j'en ai pas à ma connaissance sur les sites que je suis, entre les usagers du site humain et les vipères, quoi.
Oui.
C'est une espèce pacifique qui est pas agressive.
Parce les vipères, elles ont quand même longtemps eu mauvaise presse. Enfin, c'est pour ça, c'est parce qu'elles mordaient
Après, il faudrait voir ce qu'en disent les ethnozoologistes là-dessus, les historiens, etc. Ouais. J'ai pas plus creusé le sujet que ça, mais oui, globalement, c'est ça. Et puis, c'est des bêtes qui peuvent mordre, qui sont venimeuses, hein, on le nie pas. Et ça peut être embêtant.
Oui, mais elles mordent
uniquement
si on marche dessus, en étant pieds nus.
C'est ça, Moi, je les approche, alors je les capture pas parce que c'est interdit et que j'ai pas envie de le faire.
C'est une espèce protégée,
Et depuis de peu, elle est protégée intégralement depuis peu. Avant, elle était protégée, mais on avait le droit de la tuer. C'est ça, on devait protéger son habitat, on n'avait pas le droit de la mutiler, on n'avait pas le droit de l'empailler, on n'avait pas le droit de la transporter, on n'avait pas le droit de la vendre, mais on pouvait la tuer. Mais maintenant, on n'a plus le droit de la tuer, elle est protégée intégralement. Voilà.
Et donc elle mord peu, enfin rarement.
Mais même nous, on met des plaques. En fait, des plaques en caoutchouc pour leur servir un peu de refuge. Et puis, on vient soulever les plaques pour faire nos inventaires. Et à chaque fois qu'il y a des vipères dessous, elles restent peinards, elles n'attaquent pas. Je n'ai jamais eu embêté. Je fais ça avec mon gamin quand il avait 6-7 ans. Il est encore vivant.
Super. Puis même au pire, si on se fait mordre, il y a des antivenins assez efficaces. On ne meurt plus des vipères en France. Quoi.
Oui, c'est ça.
Bien.
Mais il y a pas mal de littérature là-dessus, hein, si ça intéresse les gens. Et on trouve des documents qui documentent tout ça.
Et donc, la vipère pléiade, on l'a dit, a fort besoin d'être protégée, n'est-ce pas ?
Oui.
Et oui. Donc, elle est partout. Elle est plutôt dans les monts d'Arrée, dans les zones de landes et quoi.
Le problème, c'est quand on regarde une carte aujourd'hui de la répartition de l'espèce en Bretagne, la carte, elle est trompeuse. C'est-à-dire que quand on fait nos atlas régionaux de répartition des espèces, quel que soit le groupe taxonomique, on choisit une maille qui fait 10 km sur 10 km. Et il suffit d'en voir une, quoi,
pour dire il y a de la vipère pléiade.
Pour colorer entièrement la maille. Et du coup, après, alors quand on fait un zoom arrière, et ben on voit des répartitions qui se dessinent. Du coup, quand vous regardez une carte de vipère aujourd'hui avec ce maillage-là.
Ouais, c'est un peu trop gros comme maillage.
Il y en a partout, quoi.
Bah oui, voilà. C'est ça.
Mais sauf qu'on a très peu d'idées. Alors, on commence à en avoir parce qu'on commence à mettre en place des suivis protocolés et le faire sur plusieurs sites, etc. Avec nos bénévoles, etc., etc. Mais on a très peu d'idées de, aujourd'hui, en tout cas, de l'état de santé des populations.
Par contre, la densité, de population.
C'est ça, et des densités de population. Donc, le travail qu'on va faire maintenant, c'est justement de commencer à identifier les populations vraiment les plus fragiles pour voir un petit peu quelles sont les mesures de conservation qu'on pourrait mettre en place en plus si jamais il y avait rien qui était mis en place. Donc c'est un travail qu'on doit mener en ce moment, parce qu'en fait c'est très c'est maintenant les milieux, que ce soit les milieux agricoles ou même les réserves, mais globalement on gère ça de façon très mécanisée avec des grosses machines qui passent et qui gèrent la lisière un peu comme comme le reste de la prairie. En fait, on n'a pas tout le temps et partout de travail spécifique sur la gestion de ces lisières qui des fois n'apparaissent même pas parce qu'ils n'existent pas. En fait, c'est des milieux qui sont entre deux mais qui sont
ça a pourtant un nom, ça s'appelle l'écotone,
c'est ça. et du coup il faut qu'on travaille là-dessus on commence à faire cette démarche là.
Même Bretagne Vigne Vente s'y intéressait pas spécialement dans la gestion de ses réserves,
on le faisait chacun un peu comme ça avec les moyens qu'il avait, le temps qu'il avait à consacrer, parce que quand on a 700 hectares à gérer, on peut pas jardiner. Alors je pense que tout le monde avait ça en tête, je vais pas ici pour dire du mal des collègues.
Mais c'est pas un sujet vraiment
harmonisé, mutualisé et bien réfléchir et se mettre d'accord sur comment on souhaiterait que les reptiles soient pris en compte dans les plans de gestion, et donc les lisières soient pris en compte dans les plans de gestion des réserves. Et c'est pareil dans le milieu agricole, c'est pareil partout en fait, c'est pareil dans les espaces verts des communes, enfin bref, voilà quoi.
Donc il y a un observatoire spécifique pour la vipère pléiade, ou c'est l'observatoire des reptiles et des amphibiens?
Oui, alors le cadre qu'on a, c'est un observatoire herpétologique de Bretagne, l'OHB, voilà, sur lequel on faisait un travail, mais qui n'était pas spécifique à la vipère. Depuis 2025, il y a en plus, à l'échelle nationale, un plan national d'action sur les vipères de France hexagonale.
Donc toutes vipères confondues.
Toutes vipères, sauf la vipère d'Orsini qui avait déjà le sien.
Ah oui. Ouais.
Faut suivre. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Mais bon, ça concernait donc la vipère aspic, la vipère de Séouane et la vipère pléiade. Et du coup, nous en Bretagne, on a rédigé en partenariat avec Vivermore Nature, qui est dans l'observatoire Bretagne Vivante, et la DREAL aussi, qui nous aide sur ce sujet. On a rédigé une déclinaison régionale de ce plan dédié à la vipère pléiade. Et dans ce plan, on s'est dit que finalement, comme on faisait déjà des choses dans l'observatoire, c'est-à-dire la connaissance globalement, les suivis protocolés dont j'ai parlé avant.
Ouais, donc des inventaires sont faits régulièrement, quoi.
Enfin, à l'échelle de la Bretagne, on a mis en place des suivis protocolés qui concernent tous les serpents. Mais on acquiert aussi de la donnée sur la vipère pléiade.
Donc avec les plaques, c'est
avec
ça
les
Qu'est-ce
plaques.
Qu'il y a d'autre pour les observer, c'est tout
Bon, c'est à vue ou sous plaque, quoi. D'accord. Ou à côté des plaques. Mais en fait, c'est des transectes. On se balade le long des transectes.
Ouais.
On doit faire un nombre de
c'est
passages.
Une sorte de diagonale, un transect,
c'est une ligne imaginaire, qui fait une cinquantaine, une soixantaine de mètres, et le long de laquelle on dispose des plaques, et on regarde le long de cette ligne, à côté, sur et sous les plaques.
Et on revient, peut-être pas chaque année, mais régulièrement.
Si, pour les reptiles, on revient chaque année, et on fait 6 passages par an.
Ah oui, quand même.
Oui, faut trouver 6 jours où il pleut pas.
Ah ouais.
Le Finistère, c'est chaud.
Et des bénévoles aussi, en plus, non?
Puis il faut trouver des bénévoles aussi. Alors, l'écueil aussi qu'on a, c'est que finalement, pour nous, c'est plus facile d'installer ça dans des réserves, dans des espaces déjà
protégés,
parce qu'il y a du monde pour le faire.
Oui.
C'est plus facile de trouver du monde. Mais par contre, on aimerait aussi le développer dans les fermes, chez les paysans, et dans la nature ordinaire, on va dire, non protégée. Voilà, donc ça, c'est un... Parce que sinon, on va avoir la liste rouge des espèces des réserves, et on n'aura pas la liste rouge des espèces de Bretagne.
D'accord, donc il y a les comptages, et puis il y a les actions proposées.
Alors ça, les comptages, c'est fait dans le cadre de l'observatoire.
Okay.
Et nous, dans la déclinaison régionale, des plans, du plan dont je parlais, on, à partir de cette année, ça démarre juste, et ça va jusqu'en 2030, on a un peu de sous pour faire ça, on va focaliser notre attention sur l'aspect gestion-conservation, donc c'est tout ce dont je parlais avant, c'est-à-dire une mutualisation un peu des moyens, savoir, parce qu'il y a déjà plein de collègues qui font plein de trucs sympas aussi sur les vipères, j'ai été un peu négatif tout à l'heure, mais voilà, après il faut qu'on mette tout ça dans un même panier et qu'on produise des fiches, des outils techniques, le travail il va être fait à l'échelle nationale en parallèle. Donc on va produire des documents. Alors je viendrai vous en parler.
Oui, oui.
Et puis ensuite, dans un second temps, donc il va nous mener après jusqu'en 2030, on va faire de la formation sur ce sujet-là pour que tous les acteurs du territoire qui sont à un moment donné en contact avec de la gestion et des haies, puissent avoir en tête qu'il y a des serpents, voilà, et qu'il faut en prendre soin parce que les populations sont vraiment très très en diminution.
Ah ouais.
Voilà un peu tout le travail.
Et donc les personnes en question, donc c'est pas évidemment c'est pas que des bénévoles ou des salariés de Bretagne Vivante, donc c'est des agriculteurs, des gens de collectivité, c'est ça, enfin les gens qui seront formés dans le cadre de ce plan d'action.
On a cette envie là, on a cette envie là. Alors on va aller former aussi des collègues dans les réserves. Et puis on va aussi aller. Et puis l'idée, c'est de travailler avec d'autres réseaux, des réseaux agricoles, des réseaux de techniciens, d'espaces verts, pour aller partout où il y a des vipères en fait, et rencontrer tous les gens qui sont en contact avec elles. Donc c'est un travail un peu de longue haleine. Donc il y a une production de documents, puis il y aura des moments aussi de terrain, je pense, avec toutes ces personnes-là pour voir un peu ce qu'on peut faire. Mais déjà dans la cadre dans la production de documents, on aimerait bien aussi déjà aller les voir pour savoir ce qu'ils font,
ouais.
ce qu'ils peuvent faire,
ouais.
quels outils ils ont, ouais. avec les outils qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer le truc, quelle pression ils ont aussi de l'extérieur ou des fois des riverains, etc. Parce que qu'ils, voilà.
Oui.
Parce que maintenant, bah, dès qu'on laisse pousser des herbes, c'est pas
ah,
bien.
Ça fait pas propre, n'est-ce pas ?
Voilà, donc il y a tout ça. Enfin bref, c'est un,
ouais. c'est un vaste débat un qu'on complexe. A toujours et, ouais. sur Transistor, ouais, bien ouais. sûr, ouais, voilà. le rapport à la nature. Puis il y a c'est l'autre ça. Enjeu qui est de peut-être de comment dire faire comprendre aux gens que la vipère c'est pas dangereux, que c'est très important de les conserver. Enfin c'est
oui,
ça aussi
oui, oui.
redorer l'image, intéresser au moins les gens parce que les gens ils ouais. aiment bien les mammifères et les oiseaux comme je disais, mais c'est vrai que les serpents les gens ils s'y ouais. intéressent pas ou ils en ont peur. Quoi. Enfin...
Bah oui, oui 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 puis c'est des espèces qui sont globalement beaucoup moins prises en compte dans les plans de gestion, que ça soit dans les communes ou sur les réserves ou ailleurs que les autres. Que les autres bêtes que tu as citées, là, les oiseaux, les mammifères, etc., que j'aime beaucoup aussi.
Mais oui,
ailleurs.
Bien sûr, mais ça
voilà.
n'exclut pas.
Mais
voilà.
Il y a un vrai travail à faire sur les serpents en général et la vipère en particulier. Ouais,
plus
ça,
que
sûr.
Sur les couleuvres, par exemple. Enfin, la vipère est plus menacée que la couleuvre, par exemple.
Aujourd'hui, oui, on le pense, clairement. Mmh. Parce que la couleuvre, en fait, alors quand on pense couleuvre, on pense anciennement couleuvre à collier, maintenant on l'appelle la couleuvre helvétique. La couleuvre, c'est une espèce... alors, dans la dernière liste rouge, elle était DD, c'est-à-dire données insuffisantes.
Ah ouais.
On avait du mal à documenter les tendances des populations. Mais... donc, à l'échelle régionale. Donc, on va voir un peu ce que l'actualisation va donner. Mais globalement, c'est des espèces qui sont mobiles. La couleuvre à collier,
la couleuvre
helvétique,
ouais.
ça se déplace beaucoup, ça va de point d'eau en point d'eau, ça mange pas mal d'amphibiens, et ça se déplace beaucoup plus facilement sur un territoire, donc les populations sont plus facilement interconnectées. Et du coup, c'est un sacré avantage par rapport à la vipère qui est très très territoriale. Une vipère pléiade, c'est sa vie le long d'un talus qui fait 10 mètres. Quoi.
Et toute sa
une
vie.
Femelle, et
ouais.
toute sa vie. Donc si jamais le talus y pète, il n'y a plus de vipères, la population
D'accord.
elle saute.
Ok, je voilà. comprends. Donc jusqu'en 2030, Bretagne Vivante s'occupe des vipères pléiades, et peut-être même au-delà, on espère en tout cas.
Oui,
et
on faisait avant aussi.
Mais bien sûr. Et donc en attendant le LEM est terminé, on pourra bien sûr le réécouter sur le site internet de la radio. Merci Stéphane,
et
puis
rien.
Bretagne Vivante revient, ce sera le 12 mars, et il sera question d'oiseaux, il sera question de gravelots. Merci, à bientôt.
À bientôt.